Bonjour, ici Marc, bienvenue à l'épisode 90 du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la troisième partie du livre de Larkin Rose, La superstition la plus dangereuse. Si vous venez de découvrir le podcast, ce livre aide à se défaire de l'endoctrinement qu'on reçoit qui nous maintient en esclavage sans qu'on s'en aperçoive. Cet endoctrinement est aussi en grande partie, avec à mon avis les traumatismes émotionnels de l'enfance, la cause des guerres, de la pauvreté, de la pollution. Le début du livre est à l'épisode 50. Voici le chapitre d'aujourd'hui. Les vraies règles du jeu. Même la plupart des personnes qui prétendent aimer la liberté et croire aux droits inaliénables laissent la superstition de l'autorité limiter considérablement leur efficacité. La plupart des actions de ces personnes consistent, d'une manière ou d'une autre, à demander aux tyrans de changer leurs lois. Que les militants fassent campagne pour ou contre un candidat particulier, ou qu'ils fassent pression pour ou contre une législation particulière, ils ne font que renforcer la notion que l'obéissance à l'autorité est un impératif moral. Lorsque des militants tentent de convaincre les hommes politiques de réduire les impôts ou d'abroger une loi, ils admettent implicitement qu'ils ont besoin de la permission de leur maître pour être libres. Et l'individu qui se présente aux élections en promettant de se battre pour le peuple sous-entend également qu'il revient aux gouvernants de décider ce que les vulgaires mortels seront autorisés à faire. Comme l'a dit Daniel Webster, à toutes les époques, il y a des hommes qui veulent bien gouverner, mais qui veulent gouverner. Ils promettent d'être de bons maîtres, mais ils veulent être des maîtres. Les militants consacrent énormément de temps, d'argent et d'efforts à supplier leurs maîtres de modifier leurs ordres. Beaucoup vont même jusqu'à insister sur le fait qu'ils travaillent dans le cadre du système et qu'ils ne préconisent rien d'illégal. Cela montre que, malgré leur mécontentement à l'égard de ceux qui détiennent le pouvoir, ils croient encore au mythe de l'autorité et coopéreront avec l'injustice légale jusqu'à ce qu'ils puissent convaincre leur maître de changer les règles, de légaliser ce qui est juste. Si le message voulu par les dissidents est qu'ils désapprouvent ce que font les maîtres, le message réel que toute action politique envoie à ceux qui détiennent le pouvoir est « Nous aimerions que vous changiez vos ordres, mais nous continuerons d'obéir, quoi que vous fassiez. » En vérité, celui qui cherche à atteindre la liberté en demandant à ceux qui détiennent le pouvoir de la lui accorder a déjà échoué, quelle que soit la réponse. Implorer la bénédiction de l'autorité, c'est accepter que le choix revienne au seul maître, ce qui signifie que la personne est déjà, par définition, un esclave. Celui qui implore une baisse des impôts accepte implicitement que les politiciens décident de la part qu'une personne peut garder de ce qu'elle a gagné. Celui qui supplie les politiciens de ne pas le désarmer, par le biais du contrôle des armes à feu, concède, ce faisant, qu'il appartient au maître de laisser quelqu'un être armé ou non. En fait, ceux qui font pression sur les politiciens pour qu'ils respectent les droits inaliénables du peuple ne croient pas du tout aux droits inaliénables. Les droits qui nécessitent l'approbation du gouvernement ne sont pas inaliénables et ne sont même pas des droits. Ce sont des privilèges accordés ou refusés selon le bon vouloir du maître. Et ceux qui détiennent le pouvoir savent qu'ils n'ont rien à craindre de ceux qui ne font rien d'autre que de mendier pathétiquement la liberté et la justice. Quelle que soit la force avec laquelle les dissidents parlent de revendiquer leurs droits, le message qu'ils envoient en réalité est le suivant. Nous sommes d'accord, maître, que c'est à vous de décider ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Ce message sous-jacent se retrouve dans toutes sortes d'activités que l'on croit à tort être des formes de résistance. Par exemple, les gens manifestent souvent devant les bâtiments du gouvernement, portant des pancartes, scandant des slogans, parfois même en recourant à la violence, pour exprimer leur mécontentement à l'égard de ce que font les maîtres. Cependant, même ces protestations, pour la plupart, ne font que renforcer l'autoritarisme. Les marches, les sit-ins, les protestations, etc. sont conçues pour envoyer un message au maître, l'objectif étant de les convaincre de changer leurs mauvaises habitudes. Mais ce message implique toujours que c'est au maître de décider ce que le peuple peut faire, ce qui devient une prophétie autoréalisatrice. Lorsque le peuple s'imagine soumis à une autorité, il est alors effectivement soumis à cette autorité. Ceux qui se font appeler gouvernement tirent tout leur pouvoir du fait que leurs sujets s'imaginent que les gouvernants ont du pouvoir. Valider l'oppression. Plus les gens s'efforcent de travailler au sein d'un système politique pour atteindre la liberté, plus ils renforcent la légitimité du système dans leur propre esprit et dans celui de tous ceux qui les observent. Le fait de demander aux hommes politiques de modifier leurs lois implique que ces lois sont importantes et qu'il faut leur obéir. Rien ne montre mieux le pouvoir de la croyance en l'autorité que le spectacle d'une centaine de millions de personnes, le nombre de votants aux États-Unis, suppliant quelques centaines de politiciens de réduire les impôts. Si les gens comprenaient vraiment que les fruits du travail d'une personne lui appartiennent, ils ne s'engageraient jamais dans une telle folie. Ils cesseraient simplement de céder leurs biens aux parasites politiques. Leur désir bien ancré d'avoir l'approbation de l'autorité crée chez eux un état d'esprit semblable à celui d'un esclave. Ils se sentent mal à l'aise de garder leur propre argent et de faire leur propre choix sans d'abord obtenir la permission du maître pour le faire. Même lorsque la liberté est à leur portée, les étatistes continuent de ramper aux pieds des mégalomanes, les suppliant de les libérer, s'assurant ainsi qu'ils ne seront jamais libres. La vérité est qu'on ne peut pas croire en l'autorité et être libre parce qu'accepter le mythe du gouvernement, c'est accepter sa propre obligation d'obéir à un maître, ce qui signifie accepter son propre asservissement. Malheureusement, beaucoup de gens croient que supplier le maître, via l'action politique, est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils s'engagent donc toujours dans des rituels qui ne font que légitimer la relation esclave-maître au lieu de simplement désobéir au tyran. L'idée de désobéir à l'autorité, d'enfreindre la loi et d'être des criminels les dérange plus que l'idée d'être un esclave. Ceux qui souhaitent un niveau de contrôle et de coercition autoritaire nettement inférieur sont parfois accusés d'être anti-gouvernementaux, une allégation que la plupart d'entre eux réfutent avec véhémence, affirmant qu'ils ne sont pas opposés au gouvernement en soi, mais qu'ils veulent seulement un meilleur gouvernement. Mais par leurs propres mots, ils admettent qu'ils ne croient pas en la vraie liberté, mais qu'ils croient encore au droit divin des politiciens et à l'idée qu'une classe dirigeante peut être une chose bonne et légitime. Seule une personne qui se sent encore obligée d'obéir aux ordres des politiciens voudrait éviter d'être étiquetée anti-gouvernement. Puisque le gouvernement implique toujours agression et domination, on ne peut pas être vraiment pour la liberté sans être contre le gouvernement. Le fait que tant de militants rejettent cette étiquette, anti-gouvernement, montre à quel point la superstition de l'autorité reste profondément ancrée, même dans l'esprit de ceux qui s'imaginent être d'ardents défenseurs de la liberté individuelle. Un phénomène particulièrement fascinant mérite d'être mentionné ici. Révolté par l'injustice autoritaire, mais ne voulant toujours pas renoncer à la superstition de l'autorité en eux-mêmes, de nombreux membres du mouvement croissant aux États-Unis, des patriotes miliciens pour la liberté, continuent à chercher, ou prétendent avoir trouvé, un remède légal qui persuadera les tyrans de les laisser en paix. Au fil des ans, une théorie après l'autre a fait surface, alléguant l'existence d'un formulaire secret du gouvernement, d'une astuce juridique ou d'une procédure officielle qui peut libérer un individu du contrôle du gouvernement. Malheureusement, cela ne fait que démontrer que ces personnes ne font rien d'autre que de chercher un moyen d'obtenir la permission d'être libre. Mais le chemin vers la vraie liberté n'a jamais été et ne sera jamais un nouveau rituel politique, un nouveau document ou argument juridique ou toute autre forme d'action politique. Le seul chemin vers la vraie liberté est celui qui permet à l'individu de se défaire de son propre attachement à la superstition de l'autorité. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît, ou là où vous préférez, si vous aussi vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde. Car ça rend le podcast plus visible, et donc ça aide les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la troisième partie de « La superstition la plus dangereuse », la contradiction libertarienne.